Et oui, fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Patrick Kiasongwa est à la mise en onde. Tati Mapoukou et Marc Tchata assurent la coordination et la réalisation de cette émission de la vie au quotidien. Eh bien, nous allons parler à présent des impacts des inondations dans les zones touchées. Comment limiter ces impacts? Vous savez, plusieurs provinces sont touchées par les inondations causées par des fortes pluies enregistrées au mois de décembre 2023. Alors, il y a beaucoup d'impacts. Alors, comment limiter les dégâts? Eh bien, nous allons en parler tout à l'heure avec Maître Eric Kasongo. Maître Eric est directeur exécutif du Centre Congolais pour le Développement Durable, CODED en sigle. Vous voulez participer à cette émission de la vie au quotidien? Eh bien, le standard est ouvert. Composez le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiokapi.net. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service. Une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Bien, plusieurs provinces du pays sont touchées par les inondations causées par des fortes pluies enregistrées au mois de décembre 2023. Ces débordements des eaux peuvent avoir des lourds impacts sur les activités humaines dans les zones touchées. Elles peuvent détruire des vies humaines, la biodiversité, les moyens de subsistance, les infrastructures, ainsi que d'autres biens. Elles peuvent également aggraver les risques sanitaires et polluer l'eau douce. Alors, quelle stratégie mettre en place pour limiter les dégâts des inondations dans les provinces touchées? On en parle aujourd'hui avec Maître Eric Kasongo, directeur exécutif du Centre Congolais pour le Développement Durable. Nous avons également en ligne le professeur Eustache Kidikwadi Tango, docteur en sciences de l'environnement. Maître Eric Kasongo, bonjour.
Bonjour Monsieur Jolie Daniel Kachama. Merci de nous avoir.
Bienvenue dans cette émission. Alors, les inondations, on en parle depuis décembre. Il y a des gens qui ont quitté leur maison, les eaux sont toujours là, les maisons sont inondées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter les dégâts, les impacts? Parce qu'il y a sûrement des impacts. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter les dégâts?
Écoutez, beaucoup de choses. Vous savez que les villes modernes sont designées en fonction de tout ce qui peut y avoir comme intempéries. Rappelez-vous des grandes villes comme Tokyo, situées dans des zones sismiques où l'immobilier, les techniques pour construire les immeubles s'adaptent aux risques éventuels qui peuvent menacer cette ville-là. Eh bien, je pense que c'est la même chose par rapport avec des villes de la RD Congo, Kinshasa, Mbandaka ou Kisangani. Il faudrait vraiment que les stratégies d'urbanisation puissent s'adapter au risque le plus grave qui menace ces villes-là. Et ça veut dire que il faudrait que dans la conception de stratégies pour l'aménagement du territoire et la gestion des villes, qu'on puisse envisager sérieusement des constructions et des aménagements qui puissent sécuriser à long terme justement les populations par rapport aux intempéries et à la gravité avec laquelle elles peuvent frapper. Vous savez que même les grandes villes du monde, les plus construites, les meilleures villes avec des digues solides sont souvent frappées par des intempéries. Alors, à combien plus forte raison des villes comme les nôtres qui sont très peu construites? Nous sommes dans des villes qui ont hérité de quelques constructions laissées par la colonisation. Il n'y a pas eu tellement de progrès en 60 ans d'indépendance. Nous avons hérité et maintenu les mêmes structures urbaines que la colonisation avait laissées sans tenir compte de tout ce qu'il peut avoir comme situation en termes de croissance démographique, en termes de prolifération des lotissements et d'élargissement de la ville, quoi.
En passant, quels sont les dégâts que peuvent provoquer ces inondations?
Bah écoutez, je vais déjà vous citer les dégâts que ces inondations ont causés pour la ville pour la RDC. Mmh. On estime à peu près à 300 morts à travers le pays, 100 000 ménages impactés à Mbandaka qui ont été touchés, 200 maisons sous l'eau à Kisangani, dans les quartiers Lubunga, pour ceux qui connaissent la province de la Tchopo. Il y a un grand quartier qui est de l'autre rive de la rivière Ruki, je pense, et où 300 maisons se sont retrouvées sous l'eau, et c'est grave. Pour la ville de Kinshasa en particulier, vous avez tous les déchets, les immondices que nous avons pris l'habitude de déverser dans nos rivières et dans le cours d'eau qui serpente la ville de Kinshasa, qui se sont retrouvés dans nos rues, à l'intérieur des maisons, et empêchant la circulation pendant presque plus d'une semaine. Donc vous pouvez voir que c'est des dégâts d'une gravité telle que ça peut avoir des conséquences sur les sanitaires, sur la santé humaine, sur la santé des enfants, au contact avec les saletés et les impuretés qu'apportent ces eaux-là, qui viennent d'un peu partout, qui se mélangent même avec les eaux usées des fosses septiques.
Et donc, j'imagine qu'il y a des gens qui ont perdu les biens à la maison, tout ce qu'il y a comme biens et appareils électroménagers.
Exactement, les gens ont perdu même des souvenirs de vie. Vous perdez des meubles, ne parlons pas des PME. Vous avez combien de petits restaurants, combien de petits établissements se sont retrouvés du jour au lendemain par terre, parce qu'ils ont tout perdu, l'eau a tout emporté, et c'est très compliqué. Vous voyez comment la vie au Congo est déjà précaire, avec des difficultés des gens qui vivent dans la débrouillardise au jour le jour, et quand l'eau vient pour tout emporter, toutes les petites structures économiques qui permettent aux gens de survivre, c'est vous dire que les impacts sont terribles. C'est pour ça que nous, au niveau du CODED, nous avons recommandé à ce que le gouvernement puisse faire un inventaire exhaustif des pertes que les gens ont subies, et de voir comment un temps soit peu apporter un soulagement à en apportant une réponse adéquate par rapport à ça. Parce que nous vivons dans un pays où nous sommes censés être pris en charge par des autorités qui doivent être très attentifs par rapport à ces genres de situations qui viennent perturber le bien-être des citoyens.
Bien, on va accueillir un auditeur. Bienvenue Kikala de Kikwit. Bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Quelle est votre préoccupation? Bienvenue.
Oui, ma préoccupation, je dirais, par rapport à cette situation, si bien que cela est une catastrophe naturelle, mais en quelque sorte, nous aussi, les humains, nous sommes responsables pour quelque chose. Nous sommes en train de payer le prix de notre irresponsabilité par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, nous voyons tout le monde peut faire tout ce qu'il pense bon pour lui, de construire partout où il veut, sans toutefois que nous tenions compte de d'autres considérations, que ce soit d'ordre environnemental ou climatique.
Bienvenue.
Les immondices, les gens construisent dans des sites qui ne sont pas appropriés, et l'État aussi, à ce sens-là, en est responsable, parce que lorsque les gens construisent dans des sites qui ne sont pas appropriés, au préalable, l'État devrait mettre de l'ordre sur ces plans-là. Aujourd'hui, on a dit presque autant de villes sont affectées par rapport à par rapport à tout ce que nous vivons.
Bienvenue. Les inondations sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, d'après vous, pour limiter les dégâts?
Oui, pour limiter les dégâts, comme les inondations sont là, en premier lieu, on devrait réaffecter ces gens-là dans les sites estimés en sécurité, le temps qu'on puisse trouver des solutions durables. Parce que maintenant, là, on ne pouvait plus rien faire si pas les installer dans d'autres sites.
D'accord. Merci. Professeur Estache Kidikwadi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes docteur en sciences de l'environnement. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que ces inondations ont des impacts très lourds sur la biodiversité? Et puis, vous allez répondre à la préoccupation de Bienvenue.
Oui, bien sûr. C'est comme les deux premiers intervenants qui viennent de soulever. Vous savez que les inondations dont nous parlons ici à travers les villes République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Vous avez Kinshasa, vous avez Kisangani, vous avez aussi Mbandaka et d'autres villes. C'est une catastrophe qui est naturelle, mais c'est vrai, mais est aggravée par l'homme. Vous savez, à l'époque coloniale, même aujourd'hui, il est intéressant, en principe, de ce que nous appelons les conditions naturelles, ou autrement dit, planification urbaine, qui était vraiment insuffisante à notre pays. Il faut que, là où les gens doivent construire, il faut que l'État doit normalement jeter un coup d'œil. C'est l'État qui doit autoriser. Mais aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, et il construit une maison, il n'y a pas de collecteur, il n'y a pas de puits perdus, et les eaux sont diversées. On ne sait pas ça doit aller où, et ça crée beaucoup de problèmes. Vous allez remarquer aujourd'hui, toute la ville de Kinshasa, par exemple, la végétation qui était tout autour, quand vous prenez c'est les lignes de ozone aujourd'hui, il n'y a plus rien. Parce que quand le Kinshasa, par exemple, c'est caractérisé par deux zones. Il y a une zone qui est caractérisée par une plaine, et l'autre sont des collines. Quand vous voyez, par exemple, Mongafou, ils sont des collines, et là, ils sont des érosions. Mais la plaine, notamment à l'ouest, vous prenez Gombe, vous prenez tout ce qui est comme une télé autre. Là, c'est une plaine. Et là, il faut qu'il y ait des inondations, mais il faut qu'il y ait des techniques appropriées par rapport à cela. C'est-à-dire, même si aujourd'hui nous disons qu'il faut construire, quelqu'un qui quitte le village n'a pas de moyens, il est difficile d'aller construire dans de tels endroits. Et il faut qu'il y ait une urbanisation qui est vraiment planifiée avec des systèmes de drainage, par exemple, où on peut mettre en place pour sauver, par exemple, la population qui est vraiment sinistrée. Et aussi, on peut procéder aux cartographies des sites qui sont à risque. Il y a des sites qui sont vraiment à risque dans la ville de Kinshasa. Et on peut cartographier, actualiser, parce que la science évolue. Et si maintenant on peut dire aujourd'hui, c'est l'État qui autorise, est-ce que faut-il construire ou à ne pas construire, c'est l'État. Donc, ici, la responsabilité est partagée. D'une part, vous avez l'État aussi est là, et d'autre part, c'est nous-mêmes. Imaginez, vous voulez construire là où il y a, par exemple, le lit notamment du fleuve, à 25 mètres, à 30 mètres, non. Il y a des endroits destinés, des nombres, par exemple, des kilomètres destinés pour savoir, voilà, il faut construire à telle distance parce que le lit, par exemple, du fleuve est tout proche. Mais vous allez voir tout au long des lits, par exemple, du fleuve Congo ici, il n'y a que des maisons, il y a des bars, il y a des églises. Il y a
professeur Eustache,
on ne pourrait jamais vraiment observer par rapport à cela.
Oui, professeur, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que ces inondations peuvent polluer l'eau?
Bien sûr, mais il y a l'eau qui est, quand on parle des inondations, l'eau est vraiment sale, l'eau est polluée. Et les conséquences sont énormes, comme disaient les deux premiers intervenants. Vous allez, il y a des maladies hydriques. Par exemple, il faut s'attendre, par exemple, avec les épidémies, que vous allez voir avec la santé humaine et aussi la biodiversité, parce que il y a des écosystèmes dans le milieu qui est vraiment marécageux, les zones humides. Il y a la biodiversité importante qu'on appelle biodiversité urbaine. Et à ce moment-là, il y a des conséquences qui sont énormes. Non seulement les pertes de vies humaines, non seulement les maisons qui sont vraiment inondées, et aussi l'environnement immédiat. Donc ce sont des situations, ce n'est plus une situation d'urgence, mais il s'agit d'une catastrophe. Si on doit éduquer l'intervention de certains, notamment les partenaires, vous avez le gouvernement congolais et d'autres, qu'on cherche pour sauver, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour réduire les inondations dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC.
Voilà, les dégâts sont là. Maître Eric a énuméré ces dégâts. 300 morts, il y a des maisons qui sont sous l'eau jusqu'aujourd'hui, les gens qui ont perdu les biens, etc. Il a parlé même des entrepreneurs qui ont perdu leur PME. Maître Eric Kasongo, alors dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui doit être fait au niveau du gouvernement, au niveau des provinciales, au niveau des organisations de la société civile pour limiter les dégâts.
Oui, merci beaucoup. Nous l'avons dit, en fait, les actions à faire sont à voir à deux niveaux. Premièrement, au niveau de la prévention d'abord des risques, et parce que ce sont des catastrophes auxquelles, il faut le dire, tous les pays du monde sont exposés. Parce que la violence des eaux, lorsqu'elles montent, elles ne choisissent pas le pays. Et donc, mais tout dépend de la manière dont on fait la prévention. Donc, pour nous, la prévention veut dire qu'il faut absolument voir comment, avec le concours de l'Office de voirie et drainage et d'autres services, mettre en place des stratégies de gestion des eaux pluviales via des systèmes de canalisation et d'évacuation des eaux pour éviter que ceux-là se mélangent avec les eaux qui viennent des crues. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument voir comment est-ce qu'on peut améliorer. Et il y a aussi le volet urbanisation. Le ministère de l'Urbanisme a une grande responsabilité parce que l'aménagement urbain dépend du ministère de l'Urbanisme. Et les lotissements qui sont faits dans la ville de Kinshasa ne suivent pas de normes urbanistiques. On fait des lotissements sans faire des caniveaux. Il est temps que nous puissions changer cela, parce que sinon on va déplorer des morts en quantité. Aujourd'hui, il y a un déficit de collaboration entre les ministères de l'urbanisme, le ministère de l'aménagement du territoire et le ministère des affaires foncières. Les trois sont chargés de l'établissement des populations dans les villes. Et vous avez un nombre incalculable de cités qui naissent de comme une génération spontanée où vous arrivez, il n'y a pas d'avenue, et il n'y a pas de caniveau, mais vous avez des immeubles. Et aussi les conditions dans lesquelles les fosses septiques pour en venir aux sanitaires, parce que même les fosses septiques de ces immeubles-là ne sont pas conçues dans les normes. Et donc quand il y a une inondation, vous pouvez imaginer ce qu'il peut y avoir comme conséquence. L'autre volet, c'est par rapport à la gestion des catastrophes. Nous n'avons pas un plan de contingence. Le plan de contingence, c'est un plan qui consiste à organiser justement les secours. Comment secourir les gens qui sont sinistrés de manière structurée, où vous avez des structures de l'État qui sont formées, constituées des ressources humaines formées pour gérer ce genre de situation et venir en aide aux populations. Vous avez vu comment en pleine ville les gens ont circulé dans des pirogues, comment les gens étaient bloqués chez eux, d'autres ont dû fuir leur maison pour laisser, sans qu'il y ait, je veux dire, une assistante structurée venant des autorités publiques. Donc il faudrait un plan de contingence qui implique la formation d'un personnel qualifié pour venir en aide aux sinistrés dans ce genre de situation. Et je pense que si on commence à réfléchir sérieusement par rapport à ça, on pourrait limiter les dégâts face à ces histoires. Et puis je le rappelle, les inondations, c'est mondial. On voit des grandes villes être inondées, mais la différence, c'est au niveau de la prise en charge, au niveau de l'adaptation. Comment on s'adapte à ces risques-là? Comment on fait en sorte d'éviter qu'il y ait plus de dégâts par rapport à ces catastrophes?
Mais Monsieur Rick, est-ce qu'on peut dire que les eaux commencent déjà à baisser ou bien la situation reste la même?
Je pense que la RVF communique régulièrement. Il y a une décrue qui est constatée, qui fait que les niveaux, parce que nous avions atteint à peu près 6 mètres et demi. Je pense que la décrue a commencé à ce niveau, mais je ne sais pas à vous dire à quel niveau c'est arrivé. On peut le constater dans les rues, là où les gens circulaient dans des pirogues. Les gens ne circulent plus dans les pirogues, même si les automobilistes ont encore du mal à s'effrayer un chemin. Mais je pense que la décrue a commencé lentement.
Professeur Estache, nous parlons toujours de la limitation de ce qu'il faut faire au niveau des autorités, au niveau des communautés pour limiter les dégâts.
Merci beaucoup. Je pense que il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées en matière. Nous avons des universités ici que nous connaissons dans notre pays, même ailleurs. Il faut notamment qu'il y ait des personnes spécifiques, donc qui sont vraiment spéciales en matière dans ce domaine, pour permettre comment nous pouvons maintenant arrêter ou réduire les inondations dans certaines villes, notamment à Kinshasa ou ailleurs dans notre pays. Parce que ce qui est grave, c'est quoi? Vous savez aujourd'hui, par exemple, quand nous parlons de protection contre les inondations, il y a le contrat d'infiltration des eaux. C'est-à-dire, il y a des endroits à l'époque, c'était par exemple une végétation. Et lorsqu'il y a aujourd'hui une construction qui est anarchique, bien entendu, il faut s'attendre à ça. Vous ne pouvez même pas infiltrer. Et aussi, dans le cas de protection, il y a la fermeture des fenêtres ou des portes ou autres ouvertures, là où l'eau vient. Et là, c'est le problème, par exemple, de drainage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et on peut lutter par rapport à ça. Et aussi, on peut penser à l'élévation permanente des bâtiments ou des équipements appropriés. Par exemple, construction de digues, aussi hein, vous avez des nids de soutènement pour essayer un peu de lutter contre les inondations. Mais ça ne se peut pas se limiter à ça. Toutes les personnes qui sont touchées, il faut l'État doit les prendre en charge. C'est-à-dire, on doit mener une étude. L'étude est déjà là. Par exemple, il y a un nombre de personnes qui sont touchées, combien de maisons qui sont parties, etc. Et on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela.
Combien professeur,
de personnes sont, que nous appelons des vulnérables, des oui. touchés là. Il faut normalement les prendre en charge. Sinon, ce n'est pas bon. Il s'agit d'une catastrophe et qui est naturelle, mais aggravée par les activités humaines.
Professeur, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer l'approvisionnement en eau potable? Parce que ces eaux, l'eau est salée, ce n'est pas une eau propre à la consommation.
Ah, exactement, c'est ça que nous sommes en train de dire ici. C'est-à-dire, quand nous parlons du gouvernement, il y a des citernes, on peut aller dans d'autres milieux, dans d'autres communes qui ne sont pas touchées. On peut prendre l'eau pour s'approvisionner et on donne aux gens qui sont victimes avec ces inondations. Parce que s'ils doivent encore, d'abord ils sont touchés, ils doivent encore prendre ce taux d'inondation, c'est très très dangereux. Il y a des maladies que nous appelons les maladies hydriques qui peuvent être touchées. Ce n'est pas bon. Donc le gouvernement est capable vraiment de prendre en charge pour sauver la population qui est touchée, qui est par rapport à cet événement et qui est naturel.
Et est-ce qu'on peut dire que les dégâts peuvent être ressentis également sur les champs, sur les cultures, etc.?
Bien sûr, vous savez, quand on parle des zones humides ou des zones qui sont vraiment marécageuses, peut-être il y a des mamans qui font des cultures. Et là encore, c'est plus grave parce qu'il y a le problème de l'économie. Peut-être il y avait des mamans qui laissaient maman la vivre rien que les cultures maraîchères et ces cultures sont inondées, sont parties et ce sont parmi aussi les conséquences. Mais les légumes là aussi pour manger, il faut passer d'abord un peu des examens, voir un peu est-ce que c'est toxique ou pas. Parce que quand on parle des inondations, l'eau qui est là, c'est l'eau qui est polluée, qui ramène un peu des substances qui sont toxiques et très très dangereux pour la santé humaine et l'environnement immédiat.
Bien, nous parlons aujourd'hui de la limitation des impacts des inondations dans les zones touchées. Nous avons en ligne Maître Ouli Mwengu de Bukavu. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur le journaliste et bonjour à tous.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, ce que moi je peux dire est que d'abord les gens doivent savoir que les inondations c'est un fait social qui est normal. C'est un fait qui n'a pas commencé depuis aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps, même dans l'Antiquité, le Moyen-Âge. On a vécu des cas d'inondations, on a vécu des cas de catastrophes naturelles, les éboulements, les éruptions volcaniques, etc. etc.
Et Bukavu, on a eu des inondations à Calais aussi.
Oui, à Calais, à Ouvira, récemment à Calais, il y a une année, à Ouvira, il y a plus de 4 ans, et actuellement, on est en train d'assister les cas d'éboulements et autres. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un fait d'abord social qui est normal. Alors, ce qui est maintenant à étudier, c'est de voir comment limiter ces catastrophes-là. Et cette limitation, c'est ce que je vais aborder d'abord dans deux sens. Premièrement, d'abord, c'est de la part du gouvernement congolais, l'État congolais. Nous avions assisté il y a des années, comme en Australie, il y a eu une inondation de l'océan. Mais le gouvernement a étudié et a mis des digues, a mis des murs de soutènement pour empêcher ces eaux-là. Et jusqu'à présent, même s'il y a une inondation, les eaux ne peuvent pas traverser jusqu'à atteindre la population là où ils sont. Alors, chez nous maintenant, au pays, le gouvernement devrait copier, le gouvernement devrait développer plusieurs mécanismes pour que même si les inondations soient là, on ne puisse pas enregistrer beaucoup de dégâts comme nous le voyons aujourd'hui. Et il faut savoir comment est-ce que ces dégâts arrivent. Beaucoup de gens construisent par-ci, par-là. Beaucoup de gens sont même à côté des mers, à côté des rivières, à côté des océans. Vous allez voir que quand il y a inondation facilement, ces gens ne seront pas épargnés et on va enregistrer beaucoup de dégâts. Que ce soit de la part de l'État, même que ce soit de la part de la population, nous devons nous tous être conséquents et nous devons nous tous conjuguer beaucoup d'efforts pour que nous ne puissions pas être la proie des eaux ou d'autres catastrophes au cas où ils vont survenir.
Bien, Maître Ouli Mwengu, à Bukavu, par exemple, où on enregistre aussi des cas d'éboulement, des maisons qui s'écroulent, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter les dégâts, pour les cas particuliers de Bukavu?
Oui, c'est ce que je viens de dire. Cette responsabilité-là, c'est analysée à deux parties. Le gouvernement congolais ainsi que la population. Par exemple, pour le cas d'éboulement ici chez nous à Bukavu, ce que nous voyons beaucoup plus, ce sont ceux-là qui construisent sur des sites impropres et à la construction qui sont beaucoup plus victimes d'éboulement. quelqu'un va ériger une maison en planche, hein, une maison en planche, sur une colline, sur une pente, là où vous allez voir, même pour arriver dans sa maison, c'est une difficulté. Alors, quand il y aura un simple mouvement de vent, ou bien quand il y aura la pluie, tout ça, il y aura éboulement facilement. Ce n'est pas la première fois le gouvernement provincial a crié, a chassé, a fait ceci et cela, mais les gens la continuent à construire. Mais aussi autre chose, quand vous les chassez aussi, c'est pourquoi j'ai dit aussi de la part du gouvernement aussi, il y a une part de responsabilité. Quand vous les chassez aussi, où est-ce que vous les amenez? La ville est engorgée, il n'y a pas des engorgements de la ville. Nous avons des espaces à Katana, par-ci, par-là, même dans la plaine, mais tout le monde devait vivre dans la ville. Le gouvernement n'a aucun plan d'aménagement du territoire, n'a aucun plan d'urbanisme, n'a aucune idée. C'est pourquoi tout le monde veut se focaliser ici. Parce que quand vous voyez des gens qui vous disent que non, quand on nous chasse, nous construisons par-ci, par-là, par risque, nous exposons au risque, mais c'est parce que le gouvernement ne fait rien. Quand le gouvernement met la sécurité par-ci, par-là, met les marchés, met les stades, met les terrains, parce que tout le monde veut là où il y aura des mouvements pour sa survie. C'est ça le problème que nous avons. C'est pourquoi vous allez voir quand il y a des simples mouvements, quand il y a des vents, quand il y aura des pluies directement, on va enregistrer beaucoup de cas d'inondations et d'éboulements de terre. On va voir même des inondations avec ceux-là qui construisent à côté des rivières, non, à côté du lac, à côté des rivières. Il n'y a vraiment aucun contrôle. Et ceux-là qui sont chargés de contrôler ne font absolument rien parce que soit il y a quelque chose que la population va donner, tout ça, et les agents qui sont chargés de contrôler et aussi abandonnent.
Merci, Maître Oli Mwengu de Bukavu. Nous parlons de la limitation des impacts des inondations dans les zones touchées. Maître Eric Kasongo, qu'est-ce que vous pouvez... votre réaction par rapport à ce que Maître Oli Mwengu vient de nous dire depuis Bukavu?
Oui, tout à fait. Ce que Maître vient de relever, c'est ce que j'avais mentionné avant. C'est-à-dire que nous avons plusieurs défis à relever. Je pense que le gouvernement doit... mettre ça parmi ses priorités, c'est de s'assurer que les villes qui naissent un peu partout soient construites en suivant des normes urbanistiques. Et le professeur l'avait relevé avant, il y a des zones qui nécessitent qu'on puisse ériger des digues et des digues solides en permanence. Mais déjà, il faut commencer par les inventorier, ces zones-là. Les zones les plus exposées par les inondations, parce que l'histoire des inondations dans notre pays nous renseigne qu'il y a des endroits qui sont souvent inondés et où on ne fait que déplorer les dégâts. On n'amène pas de mesures de riposte. Hein. Je ne sais pas si c'est de la compétence du régie des voies fluviales ou de quel office. Je me rappelle, si j'ai bon souvenir, que vers à l'époque de la colonisation, il y avait ce comité qu'on appelait Comité hydrographique du bassin du Congo.
Oui.
Le Comité hydrographique du bassin du Congo faisait placer des stations d'observation systématiques sur le fleuve, et surtout dans des zones qui sont les plus exposées aux inondations, pour faire des observations et recommander des mesures idoines pour empêcher qu'il y ait beaucoup de dégâts. Je ne pense pas qu'il y ait un service comme ça à l'heure actuelle qui puisse faire l'inventaire des zones les plus exposées aux inondations et prendre les mesures qu'il faut. S'il faut construire des digues, s'il faut faire des murs, s'il faut empêcher les gens de construire, s'il faut éloigner les gens des côtes et le faire de façon systématique. Je pense que c'est ça le grand travail que les autorités doivent faire à tous les niveaux, surtout dans les provinces les plus exposées ou les plus touchées, pour éviter que des dégâts pareils ne puissent se reproduire. Autrement, ça va être difficile. Nous serons encore en train de revenir sur à déplorer des morts, à déplorer des dégâts matériels pour lesquels, justement, le gouvernement se dédouane. Moi, je dois rappeler ici que c'est de la responsabilité du gouvernement que d'inventorier les gens qui sont sinistrés et de voir comment répondre à leurs besoins. Parce que c'est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que les dégâts soient limités. Et donc, si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, ce n'est pas bien. Il faut que ceux qui sont victimes puissent être pris en charge et c'est de manière automatique.
Il ne faut pas que ce soit comme des mendiants qui aillent supplier. Non, le gouvernement doit venir vers eux et leur apporter l'aide nécessaire dont ils ont besoin pour pouvoir sortir de cette situation catastrophique.
Et quels sont les besoins de ces sinistrés?
Eh bien, c'est déjà pour ceux qui ont perdu leur maison, d'être logés décemment. Pour ceux qui sont dans des endroits où ils ne peuvent plus accéder à leur maison à cause des inondations, déjà évacuer très rapidement ces zones-là pour que les routes soient de nouveau praticables. Pour ceux qui ont perdu leurs activités économiques, déjà voir comment est-ce qu'on peut leur permettre de rentrer dans des situations en vie, parce que si vous avez une PME qui nourrissait vos enfants et que à cause des inondations, eh bien vous avez tout perdu. Et que vous étiez à un endroit où on ne pouvait pas soupçonner que l'eau pouvait arriver. Vous avez tout perdu. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Vous avez aussi des gens qui ont perdu leurs membres de famille. Comment faire pour ne fût-ce que aider ces gens-là à organiser les obstacles, c'est déjà quelque chose. Mmh. Donc le gouvernement a une responsabilité sur plusieurs cas qui concernent les sinistrés et il faudrait que le gouvernement puisse agir en ce sens-là pour qu'on se sente réellement gouverné. Et que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles comme ça, on ne se dise pas qu'on vit dans un pays sans autorité. Il faut qu'on sente l'accompagnement des autorités. Il faut qu'on prenne les soucis de voir que les choses, la situation puisse changer et s'améliorer. Voilà.
Bien, on va accueillir Monsieur Malonga depuis Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour. Je dis un meilleur réveil à vous et à tout le monde qui nous suivent.
Merci. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Monsieur Malonga?
Ok, merci beaucoup. Mais moi, je vois aujourd'hui, limiter les dégâts, c'est trop dur. Moi, pour moi, je vois que comment on peut éviter ça. Puisque nous appelons ça, ce sont des catastrophes naturelles. Mm-hmm. Que personne n'a le pouvoir d'empêcher ou bien de faire quelque chose pour limiter ça. Mais, comme ça nous prévient, vous voyez que à cette année, ça se succède. Hein. En 2022, il y avait la même sorte d'inondation. En 2023, ici, qui s'accompagne avec 2024, il y a plus de ce qui était en 2022. Nous qui faisons souvent la navigation d'ici Kinshasa, c'est malheureux pour les riverains. C'est malheureux. Et surtout pour aussi les soldats marins. Ils souffrent. Tous leurs cas, tous les villages de pêcheurs, même tous les grands villages au bord des rizières, Kouilou.
Tous ces villages sont inondés.
Kassai, tout c'est inondé. Alors, heureusement, gloire à Dieu, il n'y a jusqu'à présent pas la mort d'homme. Ce que moi je peux prévenir et je peux conseiller aux gens, depuis longtemps, depuis que ce monde est inondé et peuplé, je crois que les villages eux-mêmes se forment par leur chef du village. Dites que, l'État, il y a côté de la Bisse Makambo, oui, ce n'est pas mauvais. Mais d'abord, si les inondations viennent pendant la nuit, est-ce que l'État peut intervenir? Alors, ce sont les chefs du village d'abord qui doivent prendre des précautions adéquates pour déplacer leurs villageois. Alors, prochainement, nous déplaçons pour construire un autre village à un milieu vraiment sécurisant.
Monsieur Malonga, est-ce que les chefs de village ont assez de moyens pour déplacer les populations? Bon.
Je dis, les moyens, oui. Mais lorsqu'ils construisaient ce village-là, qui leur avait donné les moyens? Je ne suis pas contre, et je n'interdis pas, l'État ne peut pas les inciter. L'assistance que l'État doit intervenir d'abord, c'est l'assistance de se déplacer là, de ses victimes, mmh. Pour les accompagner. Mais premièrement, après l'inondation, est-ce que la population, ces villageois, vont continuer à construire là-bas, à rester là? Non. Ici, chez nous, à Bandundouville, au bord du Kouilou, toutes les maisons qui sont construites là sont vraiment non. À partir de Bifir, là où Kouilou et Kassai se croisent là-bas, il avait déjà des maisons. Tous inondés, montés jusqu'à Boudjala là-bas. Les maisons sont vraiment inondées. Alors après cette inondation, il faut attendre que le gouverneur descende là pour commencer à déplacer quelqu'un. Non, c'est nous-mêmes qui devons prendre des précautions. Non, en tout cas prochainement, je ne resterai pas ici. Peut-être, comme la ville est déjà lotie, l'État peut leur servir à leur octroyer un étendu comme ça pour commencer à construire. Et il ne faut pas répéter encore ça pour attendre une autre inondation pour déclarer la même déclaration. C'est ce que moi je peux contribuer à faire éviter ces inondations qui nous surprennent comme ça.
Merci. Parce
que nous sommes à la fin du monde. La terre vraiment est fatiguée, est vieillie. Il faut que nous subissions comme ça.
La terre est fatiguée. Professeur Eustache, vous avez la parole.
Merci beaucoup. C'est comme le frère vient de dire, la terre est fatiguée. Il a raison, hein, conditions naturelles du sol, pas de conditions naturelles du sol. Il a raison. Donc en fait, de quoi les amis ont déjà abordé le thème, la première chose pour le moment, quand nous parlons du gouvernement, c'est-à-dire d'envoyer une équipe spécifique sur les terrains dans différents domaines. Par exemple, les environnementalistes, les géologues, hydrologues, tout ce monde-là, ils doivent venir travailler la main dans la main. Première chose, il doit cartographier la zone là. Il doit maintenant identifier quelles sont les maisons ou les parcelles qui sont touchées. Le nombre de personnes sont déjà connues, etc. Et aussi, ils seront maintenant en mesure de voir la distance entre, par exemple, le lit. Vous avez, comme papa vient de dire, au niveau de la ville de Bandundula, à bord notamment, par exemple, du fleuve Congo ou soit de la rivière Kwilu, on doit normalement voir de quelle distance, quel type d'activité que les gens sont en train de mener. En fait, le gouvernement, quand nous disons le gouvernement, quand on parle de la ville, il y a deux choses. Il y a d'abord, un, l'espace, et deux, les activités. La plupart des gens, vous allez trouver, lorsqu'il a l'argent, il trouve un espace. Mais il faut qu'il y ait l'autorisation maintenant de l'État. C'est l'État qui doit dire oui et non. Quand l'État dit non, il va vous dire, attention, cette zone est une zone à risque. On ne peut pas construire parce qu'il y a ça, ça, ça. Mais je reconnais qu'en termes d'urbanisme et habitat, on peut construire partout. Mais attention, il faut qu'il y ait des constructions qui sont vraiment spécialisées. Il y a des pays que vous trouvez, les gens vivent dans l'eau, c'est vrai. Mais il faut, mais ici, c'est nous au Congo. Quels sont ces moyens-là que nous allons disposer pour permettre aux gens de vivre avec les inondations en bas et les maisons sont en hauteur? C'est-à-dire, si vous voulez, il faut qu'il y ait des techniques vraiment qui sont appropriées. Mais sinon, s'il n'y a pas de moyens, on doit notamment dire aux gens, et il y a des choses, comme il venait de dire, il y a chef de quartier. Parce que s'il y a une inondation, par exemple, la nuit, même si l'État peut venir intervenir, mais c'est déjà trop tard. C'est-à-dire, les chefs de quartier, ils sont là pour aider l'État congolais, pour dire qu'attention, ici, il y a des poteaux qui sont mentionnés, c'est-à-dire on ne peut pas construire. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, 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 ça. On ne peut pas comprendre aujourd'hui. Vous allez voir à 2 mètres, 4 mètres, vous voyez que ça c'est le long de la rivière, vous voulez construire. Ça n'a pas de sens. Ça c'est vrai, il est difficile aujourd'hui de parler, de dire que lutter définitivement avec les érosions. Non, mais on peut réduire les risques des inondations. Par exemple, avec les constructions des digues, on sait que par exemple, autant de superficie, autant de mètres carrés, et on doit appeler les techniciens qui peuvent nous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire comme les digues? Qu'est-ce qu'on peut faire comme le mur de soutènement? Et aussi, qu'il y ait le drainage, système de drainage. Ça, on doit vraiment le dire. Et aussi, planification urbaine qui est insuffisante, notamment. Parce qu'il y a le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement, des affaires même foncières. Ils doivent aller sur le terrain, avoir toutes les données, toutes les informations qui peuvent permettre qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver la population.
Professeur Eustache.
Oui.
Professeur Eustache Déprime Kitouba nous a écrit sur Facebook, il dit ceci, l'État congolais, spécialement le ministère de l'Environnement, devrait interdire la population de construire au bord des boulevards naturels, notamment, il veut parler du fleuve. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Exact. Vous savez, à bord des rivières, par exemple, quand vous prenez le fleuve là, d'abord, ce sont les habitats pour les poissons. Nous parlons de la biodiversité urbaine. Il y a des poissons qui quittent les animaux, tout ça qui viennent manger là-bas. Donc, à bord, là, c'est interdit. On ne peut pas, quelles que soient les conditions, parce que il s'agit des habitats pour la biodiversité. On peut construire, il faut aller plus loin. On voit un peu plus loin, et là, il n'y a pas de problème. Mais à bord de la rivière, ou plutôt au bord comme ça, on ne peut pas construire parce que, à ce niveau-là, ce sont les habitats, et ces habitats sont importants pour la biodiversité, les poissons, les rongeurs et tout tant d'autres. Et ça sera utile par rapport à cela. Mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, quand nous parlons de la réduction de la biodiversité urbaine, c'est à cause des activités humaines. Ils sont en train de construire tout au long, notamment de certaines rivières. Vous avez le Kwilu, vous avez le fleuve, par exemple, le fleuve Congo, et ça crée beaucoup de problèmes avec tout ce qui est comme les inondations et autres. Et aussi, la couverture végétale. Lorsque l'eau tombe, l'eau doit entrer dans le sol.
si le papa, le monsieur avait dit que le sol est fatigué, mais il a raison. Si dans cet endroit-là, il y avait une végétation, vous avez détruit, vous avez tout coupé, tout ravagé, c'est fini. Donc, vous allez voir que quand lorsqu'il pleut, l'eau peut prendre la direction diverse, et la conséquence, c'est quoi? Ce sont les inondations. C'est pourquoi il parle de sol fatigué, il a raison. Donc, aujourd'hui, il faut planter, il faut mener les activités, identifier toutes les activités possibles, et ce sont des bars, ce sont des églises, ce sont des maisons, je ne sais pas où quoi. À ce moment-là, on peut demander à l'État, c'est l'État congolais qui a tout le temps l'œil de dire oui ou de dire non avec les instructions, c'est tout. Mais maintenant là, s'il y a aujourd'hui, on sait que cette zone ici, si vous voulez construire, il faut construire selon les normes urbanistiques. Sans toute fatalité des normes urbanistiques, il y aura toujours des sécurités. Et ici, nous sommes au début. Comme il y a le changement climatique avec les conséquences, il est grand temps, avec les annonces ici, vraiment de prendre les mesures en amont pour nous permettre à réduire les risques ou les conséquences des inondations dans les villes de la RDC. Précisément, vous avez Kinshasa, vous avez Mbandaka, vous avez aussi Kisangani. Il faut tout faire pour réduire. On ne dit pas qu'il faut supprimer. Non, mais c'est réduire par rapport à cela. Parce qu'il y a aussi la biodiversité qui est en train de partir. Et c'est très, très dangereux. Et pour l'avenir, ce n'est pas bon. Et surtout avec le changement climatique. Vous voyez qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train d'évoquer, les raisons, si vous allez voir dans les différentes villes-là, il n'y a plus la végétation. Oui. Il n'y a plus rien. Tout est saccagé, tout est coupé. Mais maintenant, il faut chercher quelles sont les espèces qui sont utiles qu'on peut planter là où il y a des inondations. Par exemple, le cas des acacias. Les acacias sont des espèces utiles qu'on peut planter dans des zones marécageuses. Parce que ça va absorber l'eau, etc. On peut cibler des différents sites. Voilà un peu des propositions qu'on peut faire par rapport à cela pour sauver les gens qui sont sinistrés et aussi. Et toutes les personnes-là, vous avez posé la question. Il faut notamment les assister. Pendant nous disons, je ne sais pas si peut-être le gouvernement a déjà envoyé les gens pour les assister en termes, par exemple, je ne sais pas, le logement, à manger, les médicaments, la santé, etc. Pour les aider. Ce sont des personnes, ils ont aussi besoin de la vie, ce sont des Congolais.
Bien, nous parlons de la limitation des impacts des inondations dans les zones touchées. Nous recevons Maître Eric Kasongo, directeur exécutif du Centre Congolais pour le Développement Durable, et le professeur Eustache Kilikwadi, docteur en sciences de l'environnement. En ligne, François, depuis Kinshasa. Bonjour. Désolé, François n'est plus en ligne. Maître Eric, nous avons une question. Quelqu'un a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui ont construit sur les lits mineurs du fleuve Congo. Il parle de la cité du fleuve, par exemple. Maître Eric.
Bah, écoutez, pour ceux qui ont construit dans des endroits plus ou moins exposés, je pense que les travaux reviennent encore au ministère de l'Urbanisme. Je ne sais pas si il y a, mais il doit y avoir. S'il n'y en a pas, il faut créer une brigade immobilière, justement pour trouver des solutions idoines par rapport aux constructions anarchiques. Là où c'est déjà construit, prendre des mesures pour empêcher à ce que les inondations ne puissent causer des désastres. Mais là où c'est en voie de construction, là où ce n'est pas encore fatal, il faut que cette brigade soit active pour justement procéder aux destructions de ces endroits-là. Parce qu'il y va de la vie des gens. Beaucoup de gens meurent dans ces catastrophes-là et les enfants sont les plus exposés par des maladies endémiques lorsque ces eaux viennent pénétrer dans des ménages et dans des maisons. Je pense que si cette brigade-là n'est pas suffisamment opérationnelle, nous aurons qu'à déplorer des dégâts. Donc encore une fois, je pointe du doigt le ministère de l'urbanisme et habitat, le ministère des affaires foncières qui autorise les lotissements et aussi l'aménagement du territoire. Donc, intervenant toujours dans la perspective de sauver le plus de vies humaines, il y a aussi la question des alertes météorologiques. Vous savez, partout ailleurs où les gens sont menacés par des catastrophes naturelles, parce qu'il faut se le dire, c'est une catastrophe naturelle, il y a des alertes météorologiques qui existent, qui annoncent et qui préviennent les gens sur les dangers qui peuvent arriver et les gens prennent des mesures. Le but étant, non pas d'empêcher la catastrophe, mais de limiter les dégâts humains et les dégâts sur les infrastructures que peut causer justement ces catastrophes-là. Chez nous, ces alertes-là sont inexistantes. Où les gens qui travaillent dans ces services météorologiques-là ne sont pas dotés de suffisamment de moyens pour leur permettre de faire leur travail correctement. Nous vivons dans une ère avec le réchauffement climatique, avec les changements climatiques comme il a été mentionné. nous devons nous préparer à avoir des mesures solides d'adaptation au changement climatique. Et ça, ça fait partie des mesures que nous devons absolument prendre pour empêcher que les dégâts ne causent davantage des malheurs auprès des populations. Donc, il faut beaucoup de sérieux dans le suivi, justement, des constructions et dans la manière d'autoriser les lotissements dans des zones qui sont exposées, justement, aux inondations faciles.
Bien, maître, comment vous évaluez aujourd'hui la réponse humanitaire du gouvernement face à cette catastrophe? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui les victimes sont réellement prises en charge?
À moins que je n'ai pas l'information, je pense que nous avons tous suivi les spectacles désolants des inondations dans la ville et la manière dont les sinistrés se sont pris en charge. Je n'ai pas vu une réponse costaud. En termes d'intervention rapide pour soulager les souffrances de la population. Vous avez posé une question tout à l'heure sur la question de l'eau potable. Dans la plupart des zones inondées, l'eau n'est plus potable. Les stations de la régie des eaux ont été envahies par des eaux usées. Alors, normalement, il aurait fallu que le gouvernement procède à la distribution gratuite de l'eau potable dans les zones qui sont touchées. Est-ce que ça a été le cas? Non, je pense que la réponse du gouvernement jusqu'à présent n'a pas été à la hauteur et à la hauteur des impacts que les populations ont subis. C'est pour ça que nous disons qu'il faut absolument réfléchir sur ça pour voir comment améliorer à l'avenir. Nous vivons dans un pays qui a la responsabilité vis-à-vis des populations, surtout en cas de catastrophe comme ceux que les populations ont vécu. Et donc la réponse du gouvernement doit être efficace et solide et n'épargner personne parmi les sinistrés. Je ne pense pas que cela a été le cas.
Bien, maître Eric, il faut attendre combien de temps pour assister à la décrue totale des eaux du fleuve Congo?
Bon, je n'ai pas des informations techniques quant à ce. Je pense que nous devons rester attentifs au communiqué de la régie des voies fluviales pour voir comment. Et puis les pluies ne se sont pas arrêtées. Hein. Nous sommes encore au mois de janvier. Il est possible qu'il pleuve encore et qu'on puisse assister à une nouvelle crue. Donc, parce que normalement, suivant le positionnement de la RDC, c'est autour de mi-février qu'on peut assister à une baisse de pluie. Donc je ne peux pas vous dire avec exactitude quand est-ce que la décrue va être, mais suivons de près les communiqués que la régie de voies fluviales met à la disposition de la population.
Bien, comment limiter les impacts des inondations dans les zones touchées? Professeur Eustache Kidikwadi, vous êtes docteur en sciences de l'environnement. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui doit être encore fait pour protéger surtout les écosystèmes, protéger la biodiversité face à ces inondations?
Oui, mais je vous ai dit ici, comme venaient dire les autres, les collègues, donc c'est comment nous pouvons réduire avec tout ce qui est comme de la biodiversité et autres. Vous savez que le problème des inondations, ce que nous sommes en train de parler ici, c'est vrai, catastrophe qui est naturelle, mais aggravée par les activités humaines, ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que même ce que nous disons qu'à l'époque, il y avait des inondations, il y avait ceci, mais tout, nous devons aller plus loin, c'est vrai, ce n'était pas comme ça, ce que nous sommes en train de faire avec une superficie ou des personnes qui sont vraiment touchées. Alors, avec des impacts, notamment avec la biodiversité urbaine, on peut, s'il y avait par exemple une étude avant, pour voir dans des différentes zones, qu'est-ce qui est comme par exemple la biodiversité, quel type d'habitat, quel type d'écosystème, on pouvait aussi observer aujourd'hui qu'est-ce qui est comme de la biodiversité, qu'est-ce qui est resté, etc. C'est pourquoi ce problème, c'est un problème qui est vraiment complexe. C'est-à-dire l'intervention, il faut beaucoup de domaines qui doivent intervenir pour permettre à mettre aussi, parce que l'homme doit vivre dans un environnement écologiquement et socialement vivable. Mais à tout moment, quand il y a par exemple des cas d'inondation, autant mettre vivre avec le changement climatique qu'avec les inondations. Parce que l'inondation, quand il y a de l'eau, sachez que tout ce qui est encore des maladies hydriques et tout ça, c'est un peu très compliqué à réduire. Mais nous sommes obligés à l'État congolais et nous aussi nous-mêmes, nous devons participer. Comment à prendre en charge pour permettre à réduire. J'ai entendu si l'État congolais il y avait une assistance ou pas, je n'ai pas une réponse qui est vraiment positive ou négative en matière, mais sinon l'État doit assister, surtout les sinistrés, les personnes qui sont vulnérables, il faut les prendre en charge, même les autres, c'est important, il faut les sauver, ce sont les Congolais.
Mmh. On va terminer cette émission avec la question de Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour Roger.
Bonjour Monsieur Jeudi et bonjour à nos invités. Je dois aller vraiment droit au but. Monsieur Jeudi, vous savez, dans notre pays, je trouve que ce sont des phénomènes qui sont vraiment catastrophiques et naturels. Vous regardez quand même, on dit que diriger c'est prévoir. Si vous regardez aujourd'hui dans notre pays, il y a plusieurs événements qui arrivent, mais l'État congolais qui n'arrive pas à gérer ça. Vous avez vu dernièrement à l'est du pays avec les volcans, où on a eu de pertes humaines, dernièrement avec des inondations, on a eu à perdre plus de 300 de nos compatriotes, et on a eu à perdre même matériel, des hôpitaux, des centres de santé, des maisons. Je pense à ce niveau que nous, on a quand même des ministères qui sont vraiment habilités à ce secteur-là. Ce n'est pas la toute première fois de parler toujours à ce secteur. Vous allez voir même ici à Kinshasa, ici, aux environs des Kalamu, des Mahindili, tout près là, les gens construisent toujours. Et puis quand vous demandez, ces gens-là ont toujours eu l'autorisation de partir auprès de l'État congolais. Je pense que si à ce niveau quand même que l'État congolais prenne quand même les choses avec beaucoup de responsabilités, je ne pense pas qu'on pouvait toujours arriver toujours à ces gens, toujours de perdre dans les vies humaines quand même, monsieur Jeudi.
Merci pour votre intervention, Roger Marcel. Maître Eric Kasongo, pour terminer, qu'est-ce qu'on retient en quelques secondes?
Ce qu'on retient, c'est que le gouvernement doit s'assurer d'avoir un plan de contingence solide et sérieux, capable d'être déclenché pour toutes sortes de catastrophes naturelles que les populations peuvent suivre. C'est vrai que les catastrophes naturelles, ce sont liées à la nature et au réchauffement climatique, ce sont des choses incontrôlables. Mais ce qui est contrôlable, c'est justement la prévention, la limitation des dégâts. D'où les mesures idoines pour permettre à ce que, à chaque fois que ces catastrophes arrivent, la population puisse s'adapter comme il faut et limiter justement les dégâts, non seulement humains, mais matériels. Donc, il importe que le gouvernement mette en place des mesures pour que les ministères qui sont en charge d'assurer justement que cette prévention soit solide puissent être effectivement actifs.
Et ils peuvent et ces ministères peuvent travailler en synergie.
Travailler en synergie, effectivement.
Merci.
Et identifier des zones qui sont les plus exposées pour prévoir des mesures idoines, comme
merci.
Le professeur l'a dit.
Merci beaucoup, maître. Merci, maître Eric Kasongo, directeur exécutif du Centre congolais pour le développement durable. Nous disons également merci au professeur Eustache Kidi-Kwadi, docteur en sciences de l'environnement. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.